VOA Afrique, les infos. À Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. Le président nigérien Muhammadu Buhari est attendu demain, jeudi, en Afrique du Sud, dans le cadre d'une visite d'État. Il va s'agir de raffermir les liens entre les deux pays après une vague meurtrière de violences xénophobes qui ont frappé l'Afrique du Sud début septembre. Au moins 10 personnes avaient été tuées, dont 2 ressortissants étrangers, lors de violences qui ont débuté à Pretoria et se sont propagées jusqu'à Johannesburg. Ces attaques qui ont pris pour cible des entreprises appartenant à des étrangers ont duré plusieurs jours et déclenché des réactions indignées à travers l'Afrique, avec en première ligne le Nigeria. En riposte, des entreprises sud-africaines installées au Nigeria ont subi la furie des Nigérians. Les présidents Muhammadu Buhari et Cyril Ramaphosa vont tenter d'élaborer des réponses aux défis qui incombent aux deux pays. Au Cameroun, plusieurs personnalités politiques ont profité du grand dialogue national pour aborder des questions sur la forme de l'État. Ce sujet est exclu par le pouvoir qui veut une rencontre destinée à résoudre seulement la crise anglophone. Eric Manirakiza.
John Frundi, leader du SDF, principal parti d'opposition, a exigé un retour au fédéralisme, comme c'était le cas avant son abolition en 1961. Si ces propositions sont ignorées, le SDF menace de se retirer du dialogue. Akere Muna, anglophone opposant et avocat de renom, a claqué la porte, dénonçant le refus d'ouvrir un débat sur la forme de l'État. Une autre opposante, Alice Sadio, ne participe plus aux travaux, dénonçant un grand monologue hypocrite. En convoquant ce dialogue, le président Paul Biya avait exclu toute discussion sur le fédéralisme, la sécession et son statut de président. Mais lundi à l'ouverture, une figure du RDPC, le parti au pouvoir, Ibrahim Mbombo Njoya, sultan de Fumban, a quand même posé la question de l'alternance au sommet de l'État. Selon lui, le seul remède pour guérir le mal et la limitation des mandats présidentiels à 2. Le Premier ministre Joseph Dion Nguté a dû lui faire un rappel à l'ordre. Le dialogue national s'est poursuivi hier à huis clos dans des travaux en commission.
République démocratique du Congo, 4 gouverneurs de province étaient dans la délégation du président Félix Tshisekedi aux discussions avec le président de la Banque mondiale lundi ici à Washington. Eddie Isango a reçu dans le studio celui de la province de l'Ituri, Jean Baminissa.
L'institution Banque mondiale qui est en train de mettre en place une nouvelle procédure qui va peut-être être un peu plus souple, qui est celle d'avoir ses bureaux à l'intérieur du pays. Donc un bureau va s'ouvrir à Goma, un autre à Kananga. Celui de Goma va couvrir les provinces de l'Est et celui de Kananga, ceux du centre. Donc il était question que nous puissions proposer, suivant notre programme d'appui prioritaire, quelques propositions pour que la banque puisse nous accompagner. Nous avons effectivement ramené encore les questions de stabilité qui passent par la restauration de l'autorité de l'État, c'est la justice, c'est les équipements, c'est l'administration. Au niveau de la diversité économique, c'est les routes qui soient des corridors et qui puissent permettre ce que les développements puissent se faire le long de ces routes. La Banque mondiale a été très attentive et nous l'en remercions. Et les questions que, en tout cas, son intervention soit doublé par rapport à ce qui se faisait jusqu'à présent. On était à 500-600 millions de dollars.
Vous êtes à la tête d'une province qui a été meurtrie longtemps par des conflits interethniques et même des guerres. Aujourd'hui, on assiste à une certaine résurgence de ces conflits. Comment pensez-vous résoudre ces problèmes?
Depuis 2 ans, on a connu encore un nouveau cycle. Nous sommes en train d'y aller par deux voies parce que malheureusement, c'est vrai que quelquefois, les conditions s'y prête quand on regarde le chômage, le manque d'éducation, le commerce criminel qui se fait sur des ressources naturelles, que ce soit le bois, le braconnage, que ce soit les matières précieuses comme l'or, etc., qui fait que avec la proximité des frontières, il y ait plutôt une économie informelle qui soit favorable. Donc nous nous battons pour que le formel puisse prendre la place et que les dissensions entre les communautés puissent se taire. Et pour cela, c'est vrai que depuis 2 ans, on a vu dans le territoire de Djougou une recrudescence de violence qui a été puisée, en tout cas en prenant des éléments, surtout dans une communauté de Djougou, la communauté Balé, où il y a vraiment un travail qui est en train de se faire avec les leaders maintenant pour arrêter cet endoctrinement de certaines personnes contre des populations. populations alentour, les Alour, les Emma, etc.
Tous les Congolais qui ont été déférés au niveau de la CPI pour les affaires congolaises sont venus de votre région. Mais cela n'a-t-il pas suffi à donner la leçon pour mettre fin à ces tueries ou qui continuent?
Nous devions avoir plutôt des résultats qui sont dissuasifs pour que les personnes ne prennent plus ce chemin. Effectivement, il nous faut peut-être un autre tribunal ou il nous faut renforcer nos tribunaux. S'il n'est pas nécessaire d'aller se faire juger par les lois sont les mêmes, les lois pénales sont les mêmes, mais si nous avons des bonnes capacités de nos juridictions au niveau de la RDC et que nous avons des prisons qui ne sortiront pas des personnes qui vont revenir encore à cela, nous pensons que nous allons pouvoir vaincre.
Jean Bamanissa, le gouverneur de la province de l'Ituri, dans nos studios ici à Washington. Une organisation congolaise a appelé les autorités judiciaires de la RDC à enquêter sur le patrimoine de l'ancien président Joseph Kabila et des anciens ministres. Georges Kapyonga, le président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, a transmis au procureur de la Cour de cassation pour qu'il en fasse autant pour les anciens ministres. Cette requête, les ministres, les vice-ministres, et n'hésitent même pas à les contraindre par tous les moyens de droit ou à les poursuivre en cas d'obstruction, rébellion et autres infractions.
Nos infos sur voaafrique.com.
Au moins 25 soldats maliens ont été tués lors d'intenses combats. C'était lundi et mardi pour le contrôle de deux camps militaires attaqués dans le centre du pays en guerre par les djihadistes qui ont eux-mêmes perdu 15 hommes, a indiqué le gouvernement malien. Il s'agit d'un des coups les plus durs suivis depuis des mois par l'armée malienne, mais aussi par la force des pays du G5 Sahel dont relève l'un des bataillons maliens attaqué lundi. Une soixantaine de soldats sont par ailleurs portés disparus. L'armée a essuyé de lourdes pertes en matériel, a ajouté le gouvernement dans un communiqué. Hors du continent, en Irak, deux manifestants ont été tués et 200 personnes blessées hier lors de manifestations dispersées par les forces de l'ordre à Bagdad et dans le sud du pays. Il s'agit de la première contestation sociale d'envergure depuis la mise en place du gouvernement il y a près d'un an. Herman Mbo.
À Bagdad, plus de 2 milliers de manifestants se sont rassemblés pour réclamer du travail et des services publics fonctionnels. Les forces de l'ordre ont tiré à balles réelles. Pendant plusieurs heures, des salves ont résonné dans le centre de la capitale irakienne avec une fumée noire s'élevant de la place Tahrir, rendez-vous traditionnel des protestataires. Des manifestations pour dénoncer la corruption et réclamer du travail ont été également dispersées à Nasiriyah dans la province de Zikar et à Najaf au sud de Bagdad. Un manifestant a été tué et 2 autres blessés, dont un grièvement, tandis que 25 membres des forces de l'ordre ont été blessés, a indiqué le directeur de la santé de Zikar, Abdel Hussein Al-Jaberi. Le ministère de la Santé a fait état dans un communiqué d'un civil tué et 200 blessés, dont 160 civils et 40 membres des forces de l'ordre à Bagdad.
Des groupes de défense des droits humains ont demandé aujourd'hui que la justice soit rendue dans l'affaire du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, assassiné il y a un an en Turquie par des agents envoyés par Riyad. Chroniqueur du Washington Post, ce journaliste a été tué et démembré au consulat saoudien d'Istanbul. Le 2 octobre 2018, son corps n'a jamais été retrouvé. La CIA et une experte de l'ONU ont mis en cause le prince héritier saoudien et homme fort du pays, Mohamed Ben Salman, qui dément avoir ordonné l'assassinat, même s'il dit emporter la responsabilité en tant que dirigeant du royaume. Et puis, la Corée du Nord a tiré ce mercredi ce qui semble être un missile mer-sol balistique au lendemain de l'annonce par Pyongyang de la tenue samedi de discussions de travail sur le nucléaire avec Washington. Ces discussions annoncées par Pyongyang sont prévues samedi, 8 mois après l'échec du sommet de Hanoï. Washington et Pyongyang ont accepté d'avoir des contacts préliminaires le 4 octobre et des discussions de travail le lendemain. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochaines infos dans 50 minutes. Vous retrouverez Marie-France.
Soyez au cœur. cœur de l'info sur VOA Afrique.